parage à l'immirage. Richement manège était l'ombe. Tesquet était effipé, vimissine ceste. Nègre iréré, sénestu et quéron et. Tu fas quetli résora, qui l'éti donnera foutouli d'alagra. Neko mebepia vanité. Dans les mamenettes, il est faux pianté. Testu ragul azema, ou zélui l'hermonzu disi katempia lé. Siamelap, vacali polané, classou ivin horizon, voli qui y a. La vie au tour à tout. Neti, apasti, fali la vôtre tour à tout.
La fée nous n'avait marétira, marétisiran. La tige rousoge, or un sur et fort et fougea.
T'es sioka, erel mati estan fati.
Résil pour au culti.
Omi?
Etch l'interdit toi. Et mère neve birame. Qui j'ai, comme j'ai, récomme je.
Grima révisard. T'es bizarro de mani fousati fissati bénéesque.
Du mal, tu t'as les hiboux.
Qu'ils ont les roses lousiquerées. C'est vous un ébi ouveri, mais d'où courait d'elle bouste ta lame et des grains des oux.
Nazitaf, ou la guéou ersou. La zéro bactateur a ferro de la crauch. Coué lire, coué vin, coué les messes, coué les oirs, coué les ours.
À l'as génifique, sont classés vomifiques, vasonis du cul des sales. Sani suvod itex suyo, misa es choix, drimenier, koulazouvod.
Pousse les ripos, sous le sous touti, ma gilet là.
Ma gilet ma pain, ma gilet ma misère, ma gilet kili. Ma vonis routro kenoui totuke fanugu pocu poc.
Bien. Donc après cette introduction, qui j'espère est claire pour tout le monde, qui est une réécriture, je donne quelques petits détails érudits sur ce texte, hein, qui, je pense que vous avez bien saisi, qui est en fait un anagramme des extraits de l'acte 1 de Parage à l'immirage, c'est-à-dire le partage de midi de Poc le Clo-Clo, c'est-à-dire Paul Claudel, que Antonin Artaud avait justement mis en scène en 1925, Paul Claudel, ce collaborateur notoire que vous connaissez tous, et qui justement était furieux de cette mise en scène et qui récidiva en 1950 en écrivant à la revue, je ne sais plus laquelle, où Artaud venait d'écrire un article en disant « Je refuse de mêler mon nom aux écrits d'un aliéné et je retire immédiatement ma signature ». Donc il fallait lui rendre hommage pour cette déclaration courageuse et nous avons donc tenu à introduire cette lecture et exposer par ce texte, tant il est vrai, comme le disait Artaud, que tout vrai langage est incompréhensible. En cela, Artaud est un digne émule de Rabelais, car effectivement, bien sûr, c'est toujours, quel que soit l'auteur que nous lisons, c'est toujours une lecture rabelaisienne que nous faisons ici, bien évidemment. Donc, le titre de cet exposé, c'est « Artaud, thaumaturge », et nous verrons que pour Artaud, la tomate urge. Il est très important, d'ailleurs, de bien préciser en quoi l'art de la tomate est essentiel pour Antonin Artaud, car Antonin Artaud se veut essentiellement un passeur de langue, un modeleur de chair, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon ethnologique, mais que je n'aime pas beaucoup, un chaman. Hein, mais le chaman, c'est pas français, n'est-ce pas? Et donc, thaumaturge, avec cet accent qui renvoie d'ailleurs à un de nos vénérés maîtres, Marc Bloch, n'est-ce pas, qui avait fait un magnifique ouvrage qui s'appelait Les Rois Thaumaturges. Je me parais un terme tout à fait adapté pour décrire ce qu'on entend en général par chaman, et encore plus adapté à Artaud, qui est un grand amateur de tomates, comme nous le verrons. Et nous verrons l'importance de la tomate dans la pratique mythique d'Artaud. Nous verrons ça tout à l'heure. Tomate qui, bien sûr, est un légume mexicain, comme vous le n'ignorez pas, mais qui ensuite a été importé à Marseille, d'où est originaire Artaud, et qui sert à fabriquer de délicieuses sauces que l'on peut agrémenter de différentes manières, et qui a également une chair, chair fondamentale, puisqu'elle permet à Artaud de fabriquer son verbe, puisqu'un des concepts fondamentaux d'Artaud, c'est la chair verbale. Et bien entendu, où va-t-il piocher cette chair? Dans une grosse tomate, comme le dit Artaud, cherchez la grosse tomate, et cela suffira. Alors, le problème, bien sûr, pour Artaud, c'est qu'il n'a pas trouvé de tomate chez les Tarahumaras. Il n'y a trouvé que du peyote. Le peyote, bien sûr, est beaucoup moins intéressant pour fabriquer des sauces. Si vous avez essayé, ça vous met plutôt le cerveau en compote. Par contre, le problème, c'est que les Tarahumaras, comme vous le voyez, ça manque d'eau. Et sans eau, il est impossible de faire pousser de bonnes tomates, surtout des grosses tomates. Et c'est ce dont nous avons besoin si nous voulons faire une bonne tomaturgie. Bien. Alors... je vais commencer donc cette petite présentation du retour d'Artaud le Momo. Rassurez-vous, il ne reviendra plus nous hanter car il s'agit aujourd'hui de le tuer. De le tuer, de l'exécuter. Nous l'avons déjà exécuté une première fois, mais il a la vie dure, alors nous allons l'exécuter une deuxième fois. Et nous espérons qu'il ne reviendra plus hanter nos pensées. Parce que, en bonne pratique mythique, vous savez qu'il est très mauvais de ne pas tuer définitivement quelqu'un, car il n'a pas le repos nécessaire ensuite pour pouvoir jouir des délices éternels à l'ombre de tomates géantes, où il peut manger des spaghettis à la sauce tomate, qui est, comme chacun sait, le mets que les Mayas mangent dans leur paradis. Alors, je vais commencer par une lecture de quelques textes d'Artaud, avec quelques petits commentaires, et ensuite, de manière un petit peu plus sérieuse... J'espère pas trop quand même. Je donnerai quelques repères, disons, pour une lecture tomaturgique d'Artaud, de quelle manière on peut comprendre la trajectoire de la vie et de l'œuvre d'Artaud avec cet axe-là. Nous célébrons le 50e anniversaire de l'arrivée d'Artaud à Ivry. C'est une date importante. J'espère que cela va être célébré à la Bibliothèque de France. Enfin, je souhaite qu'il y ait... Des fastes républicains, comme on nous y a habitués jusqu'ici. Et alors, il semblerait que la vieille municipalité d'Ivry semblerait décider enfin à honorer Artaud en ses murs. Donc, peut-être que nous aurons enfin l'avantage et le plaisir de pouvoir écouter et entendre Artaud à Ivry-sur-Seine. J'ai même su par l'adjoint à la culture qu'il avait été question de donner le nom de la médiathèque d'Ivry à Antonin Artaud. Mais bien entendu, un grand nombre de voix se sont élevées disant que il s'agissait quand même de quelqu'un qui, vous savez, n'avait pas eu... Bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais cependant, tout de même, peut-être une petite impasse, justement, il y en a une derrière qu'on pourrait peut-être... Enfin bon. Pour l'instant, Artaud est en attente, mais avec le renouveau du Parti communiste, on peut espérer que les choses avancent. Hein. Je m'entretenais d'ailleurs il y a 2-3 jours avec Monsieur Poésie, dont je vous tairai le nom, enfin, un éminent poète, directeur d'une revue non moins éminente, résident à Ivry, et il m'a dit que sur Artaud, il était fier de ne rien avoir dit ni écrit depuis 40 ans, et que ce n'était pas maintenant qu'il allait commencer. Et sur ces bonnes paroles, il m'a serré la main et il a quitté la salle de la mairie d'Ivry dans laquelle nous nous trouvions. Le maire adjoint ne comprenait pas très bien, il ne connaît pas très bien Artaud lui non plus. Mais enfin, comme j'avais l'air de bien comprendre en lui disant que je comprenais fort bien les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas parler de cela, il a dû penser que c'était un code entre nous. Mais enfin, c'est pour dire qu'effectivement, encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident dans certains lieux de parler d'Artaud. Je vais lire donc un petit texte que j'aime beaucoup, extrait du retour d'Artaud le Momo. Artoto, puisque Artaud n'est autre que Toto, le fameux Toto dont on se paye la tête depuis bien longtemps et qui enfin peut se payer la nôtre. L'esprit ancré. Vissé en moi par la poussée psycholubrique du ciel, et celui qui pense toute tentation, tout désir, toute inhibition. Ô Dedi, Adada Orzura, ô doux Zura Adada Skizi, ô Kaya, ô Kaya Pontura, ô Ponura, à Penna Poni. C'est la toile d'araignée pentrale, la poêle Onur, d'où ou la voile. La plaque anale d'Anavou. Tu ne lui enlèves rien, Dieu, parce que c'est moi. Tu ne m'as jamais rien enlevé de cet ordre. Je l'écris ici pour la première fois. Je le trouve pour la première fois. Non, la membrane de la voûte. brute. Non, le membre omis de se foutre d'une déprédation issue, mais une carne hors membrane, hors de là où c'est dur et mou. J'a passé par le dur et mou, étendu cette carne en paume tirée, tendue comme une paume de main, exsangue de se tenir raide, noire, violette de tendre mou. Mais quoi donc à la fin, toi le fou, moi? Cette langue entre quatre gencives, cette viande entre deux genoux, ce morceau de trou pour les fous. Mais justement pas pour les fous, pour les honnêtes, que rabote un délire à rôter partout, et qui de ce rôt firent la feuille, et écoutez bien, firent la feuille du début des générations dans la carne palmée de mes trous à moi. Lesquels? Et de quoi ces trous? D'âme, d'esprit, de moi et d'être? Mais à la place où l'on s'en fout, père, mère, Artaud et Itou, dans l'humus de la trame à roue, dans l'humus soufflant de la trame de ce vide entre dur et mou. Noir, violet, raide, pleutre, et c'est tout. Ce qui veut dire qu'il y a un os où Dieu s'est mis sur le poète pour lui saccager l'ingestion de ses vers, tels des pets de tête, qu'il lui soutire par le con, qu'il lui soutirerait du fond des âges jusqu'au fond de son trou de con. Et ce n'est pas un tour de con qui lui joue de cette manière. C'est le tour de toute la terre contre qui il y a des couilles au con. Et Carto renouvelle la question de l'androgyne. Et si on ne comprend pas l'image, et c'est ce que je vous entends dire en rond, que vous ne comprenez pas l'image qui est au fond de mon trou de con, c'est que vous ignorez le fond, non pas des choses, mais de mon con, à moi. Bien que depuis le fond des âges, vous y clapotiez tous en rond comme on clabaud d'un aliénage. Complote à mort une incarcération. Guéregi, Guéjegueri, Gégena et Régena, Agégariri. Entre le cul et la chemise, entre le foutre et l'inframise, entre le membre et le faubon, entre la membrane et la lame, entre la latte et le plafond, entre le sperme et l'explosion, treu l'arête et treu le limon. Entre le cul et la mainmise de tous, sur la trappe à haute pression d'un râle d'éjaculation, n'est pas un point, ni une pierre, éclatée morte au pied d'un bond, ni le membre coupé d'une âme. L'âme n'est plus qu'un vieux dicton, mais l'atterrante suspension d'un souffle d'aliénation violée, tondue, pompée à fond par toute l'insolente racaille de tous les empaffés des troncs. Qui n'eurent pas d'autre boostifaille pour vivre que de bouffer Artaud Momo, là où l'on peut piner plus tôt que moi, et l'autre bander plus haut que moi, en moi-même, s'il a eu soin de mettre la tête sur la courbure de cet os situé entre anus et sexe, de cet os sarclé que je dis dans la crasse d'un paradis, dont le premier dupé sur terre ne fut pas le père ou la mère qui dans cet antre te refit, mais je, vissé dans sa folie. Et qu'est-ce qui me prie d'y rouler moi aussi ma vie? Moi? Rien. Rien. Parce que moi, j'y suis. J'y suis. Et c'est la vie qui y roule sa paume obscène. Bien. Et après? Après? Après. Le vieil Artaud est enterré dans le trou de la cheminée qu'il tient de sa gencive froide, de ce jour où il fut tué. Et après? Après, après, il est ce trou sans cadre que la vie voulut encadrer, parce qu'il n'est pas un trou mais un nez, qui sut toujours trop bien renifler le vent de l'apocalyptique tête, qu'on pompe sur son cul serré, et que le cul d'Artaud est bon, pour les souteneurs en misère. Et toi aussi, tu as la gencive droite enterrée, Dieu. Toi aussi ta gencive est froide depuis infiniment d'années que tu m'envoyas ton cul inné pour voir si j'allais être né à la fin depuis le temps que tu m'espérais en raclant mon ventre d'absent. Menendi, anembi, ebenda, tarche, inemtle, amarchti, rombi, tarche, payote, latinemtle, orche, pendu, opatendi, amerchi, orche, torpsta, yopst, orfsta, trotorche, campli. Côté hanche, à tes hanches, angbli. Voilà donc un des textes les plus caractéristiques de cette période d'Artaud, lorsqu'il revient en Momo. Et en parallèle avec un texte un peu plus théorique qu'on va lire ensuite, qui porte presque le même titre d'ailleurs, qui s'appelle « Histoire vécue d'Artaud le Momo, tête à tête », et qui est connu sous le faux nom de conférence au Vieux Colombier, hein, mais il ne s'agit pas en fait de la conférence au Vieux Colombier, puisque Artaud, ce jour-là, a été pris du silence sacré des mystères, et n'a pratiquement rien dit, si ce n'est se transformer en arbre et laisser tomber ses feuilles une par une par terre. Donc il s'agit du texte que Artaud avait amené avec lui, plus un certain nombre de brouillons. Ce texte, d'ailleurs, a connu l'honneur d'être effectivement bloqué et interdit pendant plusieurs années. Donc c'est un honneur aujourd'hui où les obscénités sont maintenant à la télévision tous les soirs et tous les matins. Et où c'est vrai que les quelques mots un peu osés qu'Artaud prononçait autrefois passeraient presque inaperçus, sauf à les dire autrement qu'à la télévision, bien sûr. Et je crois qu'effectivement, il y a toute une série de thèmes qu'on va ensuite essayer d'indiquer un à un. Bon, il y a d'abord le tête-à-tête avec Dieu. Artaud règle un peu son compte avec Dieu, puisque Dieu est un de ses doubles, hein. Et il s'agit effectivement de tuer Dieu. Bon, c'est pas toujours facile de tuer Dieu, hein. C'est comme partout, ça revient. Le mieux pour tuer Dieu, ce sont des mots bien ronds et bien précis qu'on applique et qu'on envoie, un peu comme on jette des sorts, hein. Artaud utilisera beaucoup cette technique. Et d'ailleurs, c'est une technique thaumaturgique utilisée dans un grand nombre de pays, y compris chez les Mayas. Je lirai tout à l'heure quelques envoûtements. En général, on va se coltiner avec les dieux ou les ancêtres. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Et on essaye de les baiser, c'est-à-dire de leur rentrer dans le cul physiquement pour leur pomper toute leur énergie vitale et ensuite pouvoir enfin les assécher. C'est effectivement une technique que Artaud a connue à ses dépens pendant des années. Un grand nombre d'intellectuels de gauche, surtout de gauche, il faut prononcer avec un accent grave sur le A, et il y en a encore beaucoup de nos jours, s'amuser à lui pomper régulièrement le cul qui sentait bon, hein, comme il le dit, il avait un bon cul, et donc les intellectuels utilisaient ces techniques. Alors, lorsque Artaud voulait expliquer qu'il était victime d'envoûtement, on s'indignait, mais comment, monsieur Artaud, vous délirez, l'envoûtement, ça n'existe pas. Bon. Artaud n'était pas dupe, il savait très bien que cet envoûtement se faisait avec des paroles, hein. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas, avec des paroles, extraire la substance vitale des gens lorsque ces paroles sont dites avec le rituel qui convient. Alors, je vais maintenant lire un petit fragment de la conférence du Vieux Colombier. Je ne disposais pas de tous ces textes quand j'ai écrit mon petit bouquin, d'ailleurs, puisqu'ils sont parus après, hein, mais je trouvais ça intéressant de travailler justement sur des textes dont je ne disposais pas pour pouvoir un peu essayer de les mettre en circulation avec les miens. Et là, c'est un petit texte que je vais lire et que je mettrai en regard d'un autre texte que j'ai écrit. On verra un petit peu qui parle. Hein. Est-ce que c'est Artaud ou est-ce que c'est moi, Pascal ? Vous vous croyez seul. Ce n'est pas vrai. Vous êtes une multitude. Vous vous croyez votre corps. Il est un autre. Vous vous croyez le maître de votre corps? Non. Il appartient à d'autres. À un autre, à l'autre, cet autre. Qui était la tarentule de Platon. Platon, ce sinistre possier des troncs. Je dis sinistre possier des troncs. Sinistre, sinistre possier, tanneur, rappeur, sarcleur, limeur, lipeur, lopeur, manque à gagner, manque à payer, à souffrir et à expier. C'est ainsi que les possiers travaillent, comme d'ailleurs tous les métiers. La peur, étron, résidu formel d'excrément, qui veut dire que Platon, comme bien d'autres, mais plus que d'autres, a travaillé sur des résidus et sur des restes. Un vieux vestiaire juif, une solennelle et gothique jade volée chrétienne, etc., etc. Eyor tirvi gaziri, on est manque à ses namanques. Timpi la voula deki, la voulibi. Il en ressort que nous sommes tous envoûtés. Et qu'il y a une affaire de possession mondiale qui dure et n'est pas encore réglée. Et ceux qui ne veulent pas le croire font partie du clan des envoûteurs. Effectivement, c'était un message un peu difficile à recevoir dans les années 48-49. On était juste après la guerre. Mais bon, les gens étaient polis, ils écoutaient. J'ai à partir de ce texte, j'ai pas à partir de ce texte, puisque je ne le connaissais pas, mais à partir... Pourquoi pas, peut-être... Je voudrais lire donc un autre texte où lui au moins, qui sait, développe la critique de la position idéaliste platonicienne, c'est-à-dire la métaphysique de l'étron. Ça s'appelle « Platon le con, il faut brûler les idées et non les corps ». Platon est un emmerdeur. Parfois, cela peut être une qualité. Mais là, non. Car la merde de Platon n'est pas la merde bonne et grasse. Une merde avec deux airs pour la faire respirer. Celle dont les Chinois raffolent. Car la Chine est un pays où on connaît la valeur des choses. Et où on ne confond jamais une chose avec une idée. Celle qui colle au cul et qu'il faut enlever avec science. Voilà, il faudrait que je mime un peu le mec qui avance les fesses serrées, car il y a de la merde collée au cul, mais enfin, j'ai pas vraiment l'espace pour le faire. Et qu'il faut enlever avec science si on ne veut pas avancer les pieds collés au sol. La merde puante, qui oblige les intellectuels à fermer la porte de leurs chiottes pour éviter qu'on les hante de trop près. Non, la merde de Platon est une idée de merde, une merde d'idées. Avoir séparé l'idée de son corps... Voilà vraiment ce qui ne pouvait naître, ou plutôt paître, car Platon est une vache qui broute les présocratiques, que dans un aïoli. Si certains ont de la sauce blanche à la place de la cervelle, Platon, lui, a de l'aïoli. L'aïoli, je cite Artaud cette fois-ci, mais enfin c'est tout aussi moi qui parle, l'aïoli est un effort métaphysique de nourriture par le palais de la langue et des dents pour aboutir à la plus sombre alchimie. À vrai dire, le seul demeuré qui ait surpassé Platon en connerie, c'est le dénommé Rabbi Yeshua, dit Jésus-Christ. Encore un juif qui ignorait la cabale, et tous les juifs qui ignorent la cabale ou la dénigrent sont contre moi, les autres sont avec moi. Lequel a été plus loin encore dans la duplicité et la connerie, puisqu'il a réussi à faire mourir un corps à sa place en sortant au tout dernier moment. Katakrist, Katasutra, Tabu Rindu, Sadhu Koru, Cul Sacré, Taputanakana, Torah, Ratora, Artora, Rectora, Polopala, Tapolopoul, Coca-Cola. C'est-à-dire, à nous faire croire qu'il y a un autre là que cela, et à nous jouer de la musique d'ange, alors que ce qu'il nous faut, c'est faire la vidange, vidange d'ange, et qu'il ne reste rien que les corps, et encore. Silence, encore. Silence des corps en science sans patience. Et tous ceux qui veulent nous faire croire le contraire sont des spécialistes de l'envoûtement. Hein, comme le disait Artaud tout à l'heure. Mais monsieur Bloccara, vous n'êtes pas sérieux. L'envoûtement, ça n'existe pas, ça n'est pas scientifique. Eh bien justement, l'envoûtement, messieurs les recteurs, rectifiés en être dans le rectum de votre académie, vous le savez très bien, cela existe. Et je crois même qu'il n'existe que ça. Je suis bien placé pour le savoir, tout dans cette société est envoûtement. C'est même la chose la plus commune qui soit. Et pour cela, il n'est pas besoin d'être docteur en médecine ou psychiatre. Psychiatre, comme disait mon voisin. Bien que ça aide d'être psychiatre. Cela permet bien de psychrater la société et de faire des envoûtements platoniques. Qui démolissent votre corps en affirmant que c'est votre esprit qui est malade et psychutérique, mademoiselle. Car le cerveau touche au sexe. Ce n'est pas Freud qui me contredira. Le cerveau est profondément relié au sexe. Mais la magie, monsieur Bloccara, la magie, qu'en faites-vous? Eh bien justement. La magie, il y en a de deux sortes. La magie blanche et la magie noire. Et je prétends que la vraie magie est concrète, qu'elle est une simple technique que l'on camoufle, que l'on gedoufle, comme on couche son argent dans un gouffre-fort. Et que les magiciens sont les êtres les plus rationnels qui soient. Simplement, le magicien est un être double alors que moi je suis un être simple. Et c'est pourquoi je ne fais pas de magie, bien que pour en avoir fait dans une autre existence, j'ai été condamné à souffrir dans le soufre de ma chair. Et si autrefois j'ai comparé le théâtre de la cruauté à de la magie, c'est que j'étais encore dans l'illusion qu'il existait un double du réel, et que je l'appelais le théâtre. Alors que le théâtre est tout le réel et qu'il n'y en a pas d'autre, et que c'est la cruauté la plus effroyable qui soit, car le monde est insupportable. Et le magicien, cet être double, produit des copies de la réalité, qu'il vous fait prendre pour la réalité, et pendant ce temps-là, pendant que nous sommes occupés à regarder ses images, à regarder son cinéma, grand-père court après la bonne. Il nous trafique des corps, il les gronique, il les suce, il les cloue, il les messère, il les mastique. Et c'est pourquoi la merde des magiciens a toujours considérablement pué. Et ne peut se comparer, quant à son infection, qu'à celle d'un intellectuel de gauche parisien. Ou à la rigueur un politicien, de gauche ou de droite, hein, habitant à Saint-Germain-des-Prés. D'ailleurs, il y a beaucoup de magiciens qui fréquentent le Flore ou les deux magots. Je les ai rencontrés, et de cela, il y a beaucoup de témoins. Mais comme on les envoûte quotidiennement et inoxydiennement, ils ne se rappellent plus de rien. Bien sûr, il y a aussi des idées vivantes, totémiques. Mais celles-là, Platon ne les connaît pas. Cette critique virulente du platonisme, elle est inscrite dans le travail d'Artaud. C'est en même temps une critique de lui-même qu'il fait, puisque à certains moments de sa vie, Platon a été artoïque, notamment lorsqu'il croyait au théâtre. Et c'est tout à fait intéressant de s'apercevoir qu'aujourd'hui, Artaud est resté comme l'auteur du théâtre et son double, alors qu'il a écrit l'anti-théâtre et son double, dont je vous lirai quelques extraits tout à l'heure, qui est justement la critique d'Artaud platonicien. Ce qu'il proclame lorsqu'il dit qu'il ne faut pas séparer les corps des esprits, qu'il faut essayer de parler comme si on avait une chair verbale, c'est une très vieille technique, c'est la technique de la thaumaturgie. Et lorsqu'il parle d'envoûtement, il parle précisément de cette manière qu'ont les gens dans leur rapport quotidien de se prendre réciproquement pour des autres. Et de ça, bien entendu, tout le monde en a des preuves quotidiennes et noxidiennes. Hein, Artaud citera plusieurs fois Freud. Bon, Freud a compris un petit peu cela, mais enfin, il était trop civilisé pour aller au fond des choses. Et nous l'oublions, et surtout, nous ne voulons pas en convenir. Dire que nous sommes envoûtés quotidiennement, noxidiennement, et que nous envoûtons en permanence à partir du moment où nous refusons d'admettre que nous sommes envoûtés, nous ne voulons pas en convenir. Alors, ce que certains, n'est-ce pas, gens respectables, dont j'ai cité quelques noms tout à l'heure, appellent la folie d'Artaud, est en fait une analyse très ancienne qu'Artaud retrouve par sa propre expérience. Et c'est là où, tout à l'heure, je voudrais en venir, je voudrais montrer comment la vie d'Artaud, son trajet, va le conduire à cette redécouverte de l'aspect thaumaturgique du réel, et à se donner les moyens ensuite, à travers certains des mots que nous avons prononcés, de se donner les moyens d'intervenir pour faire de la contre, ce qu'il appelle lui du désenvoûtement. Non pas de la magie parce qu'il dénonce la magie n'existe pas, dit-il à plusieurs fois, mais des techniques qui permettent de défaire cet envoûtement par des mots qui sont des mots qui ne sont plus en décalage avec le vécu. L'idée profonde d'Artaud, en cela, il dit que Nietzsche venait lui parler certaines nuits. Et c'est vrai qu'il reprend très fort cette idée de Nietzsche, c'est-à-dire cette idée d'un savoir, du savoir ce n'est rien d'autre, d'un savoir qui, par les mots, essaye de s'approcher au plus près du vécu et essaye de dire le vécu au fur et à mesure qu'il se précise ou qu'il s'imprécise en soi. D'où pour Artaud, surtout quand vous avez une phrase maladroite, dites-la. Mais n'hésitez pas, plus la phrase est maladroite et plus elle est juste, très souvent. Ça me fait penser d'ailleurs dans un domaine un petit peu différent, qui est l'analyse des mythes. On a l'habitude dans les anthologies de contes de mettre ce qui nous paraît le plus beau et le plus esthétique. Hein, et plus la version des mythes est merveilleuse et plus on se pourlèche et on se délecte. Mais en fait souvent, les versions des mythes les plus intéressantes sont des versions un peu maladroites, mais qui ont la marque du vécu, qui sont racontées par quelqu'un qui a vraiment rencontré les fées par exemple, ou qui a vraiment croisé l'Ashtabaï ou Antoul. Mais comme ça lui est arrivé et qu'il est encore un petit peu stupéfait et qu'il ne peut que bafouiller certaines choses, mais avec des mots qui valent leur pesant de cacahuètes, qui est une denrée plus précieuse que l'or au Mexique. Donc, les anthologues, en général, le disent pas intéressant, ça. Ils l'enfouissent dans leur grenier. Et alors, ce à quoi je voudrais en arriver, c'est qu'à partir de son retour en moment, Artaud n'a plus cessé d'écrire de cette manière. Et d'écrire en même temps qu'il dessinait. Et c'est un point sur lequel on reviendra, parce que c'est un des points, curieusement, j'ai rencontré Serge Malocena, le neveu d'Artaud, qui n'est pas quelqu'un de bien méchant, et qui est quelqu'un qui a des idées, qui s'est battu un peu maladroitement en interdisant le livre d'Artaud. Et une de ses critiques, on le verra, est très judicieuse et mérite d'être reprise d'une autre manière que la manière dont il la défend, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, dernier petit texte, avant de passer à cette deuxième partie que j'annonce. Il s'agit justement d'une lecture de l'antithéâtre et son double, c'est-à-dire les deux textes que nous avons qui faisaient partie de ce livre. Nous ne savons pas s'il est complet, il est peut-être complet, hein, que Artaud voulait composer. Je vais vous en lire des extraits. Ce sont deux textes qui ne figurent pas encore hein, dans l'œuvre complète du poète. Ils ont été publiés dans une petite revue de l'époque de 1948, je crois, qui s'appelait L'Arbalète. Hein, mais vous pouvez le trouver dans cette excellente bibliothèque qui est la Bibliothèque Nationale. Et qui, malheureusement, je ne sais plus si à Tolbiac vous les trouverez. Ils se perdront probablement dans le déménagement, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Hein. Et la plus grande bibliothèque de France et les plus beaux livres. Il faut choisir. Alors, premier texte, donc, Aliéner l'acteur. Alors, effectivement, Je comprends que Claudel ait pu être gêné devant des textes de ce type qui paraissaient dans des revues où lui-même écrivait. Hein. Je comprends tout à fait. Le théâtre est l'état, le lieu, le point où saisir l'anatomie humaine et par elle guérir et régenter la vie. Oui, la vie, avec ses transports, ses hennissements, ses borborygmes, ses arrêts de circulation, ses maelstroms sanguinolents, ses précipitations irritables de sang, ses nœuds d'humeur, ses reprises, ses hésitations. Tout cela se discerne, se repère, se scrute et s'illumine sur un membre. Et c'est en mettant en activité, et je dirais en activité paroxystique des membres, comme les membres de ce formidable fétiche animé qu'est tout le corps, de tout un acteur, qu'on peut voir comme à nu la vie. Dans la transparence, dans la présence de ces forces premières nées, de ces puissances inutilisées. Et qui n'ont pas encore servi, non, pas encore servi à corriger une création anarchique, dont le vrai théâtre était fait pour redresser les irascibles et pétulantes gravitations. Oui, la gravitation universelle est un séisme, une effroyable précipitation passionnelle qui se corrige sur les membres d'un acteur. Non pas en frénésie, non pas en hystérie, non pas en transe, mais à l'extrême fil du coupant de l'arête, à la dernière et plus extrême tranche de la mesure pariétale de son effort. Paroi après paroi, l'acteur développe. Il étale ou referme des murs, des faces passionnelles et suranimées de surface où s'inscrit l'ire de la vie. Muscle après muscle, sur le corps de l'acteur méthodiquement traumatisé, on peut saisir le développement des impulsions universelles et sur lui-même les corriger. C'est une technique qui faillit avoir lieu un jour au temps des mystères orphiques ou des Léusis, mais qui manqua, parce qu'il y avait beaucoup plus question, il y était beaucoup plus question du parachèvement d'un vieux crime. Donner Dieu, tout Dieu dépecé à tout l'homme. Déjà dans Dionysos, l'annonce du christianisme. Tout l'universel du souffle inemployé des choses à l'homme bassement humain. Que de la constitution et de l'institution de cette nouvelle et palpitante anatomie furtive que tout le théâtre réclamait. Oui, l'homme eut à un moment donné besoin d'un corps squelettique neuf qui pétilla et se glissa dans l'air comme les flammes furtives d'un foyer. Et le théâtre était cette force qui barattait l'anatomie humaine, cette pétulance d'un feu inné, de quoi furent égrenés les primitifs squelettes. Cette force d'humeur éclatée, cette espèce d'irascible tumeur où fondit le squelette premier. Et c'est par le barattement rythmique de tous les squelettes évoqués que la force innée du théâtre cautérisait l'humanité. C'est là que l'homme et la vie venaient de temps en temps se faire refaire. Alors donc, premier fragment, et deuxième fragment d'un texte qui, en tant que chercheur du CNRS, m'intéresse tout particulièrement, puisqu'il s'appelle « Le théâtre et la science ». Vous avez vu depuis le début à quel point, pour moi, la science est quelque chose d'important et qui doit être utilisé à bon escient, c'est-à-dire fort peu, comme toutes les bonnes choses. Le théâtre vrai m'est toujours apparu comme l'exercice d'un acte dangereux et terrible, où d'ailleurs, aussi bien l'idée de théâtre et de spectacle s'élimine que celle de toute science, de toute religion et de tout art. L'acte dont je parle vise à la transformation organique et physique vraie du corps humain. Pourquoi ? Parce que le théâtre n'est pas cette parade scénique où l'on développe virtuellement et symboliquement un mythe. Mais ce creuset de feu et de viande vraie, où, anatomiquement, par piétinement d'os, de membres et de syllabes, se font et se refont les corps et se présente physiquement et au naturel l'acte mythique de faire un corps. Ça, c'est une très bonne définition de ce qu'est le travail du thaumaturge. Hein. Ce creuset de feu et de viande vraie, où anatomiquement, par piétinement d'os, de membres et de syllabes, se refont les corps et se présente physiquement et au naturel l'acte mythique de faire un corps. Si l'on me comprend bien, on verra là un acte de genèse vrai, qu'il apparaîtra à tout le monde saugrenu et humoristique d'appeler sur le plan de la vie réelle. Car nul à l'heure qu'il est ne peut croire qu'un corps puisse changer, sinon par le temps et dans la mort. Or, je le répète, la mort est un état inventé, et qui ne vit que pour tous les basses sorciers, les gourous de néant, à qui ils profitent et qui depuis quelques siècles s'en nourrissent et en vivent, dans l'état appelé Bardo. En dehors de cela, le corps humain est immortel. C'est une vieille histoire qu'il faut remettre à jour en mettant les pieds dans le plat. Le corps humain ne meurt que parce qu'on a oublié de le transformer et de le changer. Or cela, il ne meurt pas. Il ne tombe pas en poussière. Il ne passe pas par le tombeau. C'est une ignoble facilité de néant que la religion, la société et la science ont ainsi obtenu de la conscience humaine, que de la mener à un moment donné à quitter son corps, que de lui faire croire que le corps humain était périssable et destiné au bout de peu de temps à s'en aller. Non, le corps humain est impérissable et immortel et il change. Il change physiquement et matériellement, anatomiquement et manifestement. Il change visiblement et sur place. Pourvu qu'on veuille bien se donner la peine matérielle de le faire changer. Il existait autrefois une opération d'ordre moins magique que scientifique, et que le théâtre n'a fait que frôler, par laquelle le corps humain, lorsqu'il était reconnu mauvais, était passé, transporté, physiquement et matériellement, objectivement et comme moléculairement, d'un corps à un autre, d'un état passé et perdu de corps, à un état renforcé et exaucé du corps. Et il suffisait pour cela de s'adresser à toutes les forces dramatiques, refoulées et perdues du corps humain. Il s'agit donc bien là d'une révolution. C'est dans ce sens d'ailleurs que je voudrais intituler la conférence que je prononcerai à Ivry, Antonin Artaud, poète révolutionnaire. Il s'agit bien là d'une révolution. Et tout le monde appelle une révolution nécessaire. Mais je ne sais pas si beaucoup de gens ont pensé que cette révolution ne serait pas vraie tant qu'elle ne serait pas physiquement et matériellement complète. Tant qu'elle ne se retournerait pas vers l'homme, vers le corps de l'homme lui-même, et ne se déciderait pas enfin à lui demander de se changer. Il y a un véritable manifeste d'Artaud où les parallèles avec les démarches des thaumaturges qu'il a pu rencontrer au Mexique ou ailleurs sont manifestes, et où il va plus loin et où il essaye de penser un certain nombre de thèmes. Il ne s'agit pas du tout d'évacuer ces thèmes en estimant que « Monsieur Artaud, vous délirez, Monsieur Artaud, vous n'êtes pas sérieux », en essayant de comprendre dans quoi ils s'inscrivent et comment il faut les lire. Hein, si on est capable de... Aujourd'hui, on commence à être capable... Hein, on annonce un petit peu, mais on commence à être capable de comprendre les productions, les chairs verbales, les rituels des sociétés différentes des autres. Combien devrions-nous être capables de comprendre les productions de nos sociétés qui s'élaborent en travaillant notre pourriture, hein, notre humus social? Par exemple, lorsque Artaud fait la critique de la procréation artificielle et dit que les Américains ont trouvé de nouvelles techniques pour extraire méthodiquement un petit peu de sperme de chaque enfant, ensuite le mettre dans des éprouvettes. Bon, en 49, tout le monde pense qu'il délire. Il ne délire pas, il prophétise, comme beaucoup de poètes et de thaumaturges prophétisent de par le monde. Mais nous sommes incapables de le voir et de le comprendre. Donc c'est maintenant un petit peu... à donner quelques jalons pour cette approche de l'œuvre d'Artaud, mais de l'œuvre aussi d'un grand nombre d'autres thaumaturges que nous connaissons bien, amateurs de sauce tomate et de pizza, que je vais développer la deuxième partie. Alors, il est important de donner des itinéraires, une sorte d'histoire de vie, d'histoire de trajectoire, des vies d'Antonin Artaud, car il a eu plusieurs vies et plusieurs morts, comme je le souhaite à chacun d'entre vous. C'est bien d'une lecture métamorphique dont il s'agit. Vous avez bien vu que l'essentiel, c'est la métamorphose. Hein, et l'art de la métamorphose, c'est bien l'art du thaumaturge. Hein. Nous, pour brosser l'histoire du monde en deux phrases, nous passons globalement du stade de la métamorphose au stade de l'échange. Et c'est dans ce passage du stade de la métamorphose au stade de l'échange que se crée l'envoûtement, ce dont parle Artaud. C'est-à-dire qu'au lieu de changer le corps méthodiquement, et corporellement, on ne fait plus que simuler ce changement en échangeant un corps contre une pièce de monnaie, par exemple, ou une idée, vous voyez ? Et c'est donc essentiellement de l'histoire sociale dont il s'agit. Alors Artaud, sur le plan historique, on peut donner quelques petits jalons à un certain nombre de... Comme les thaumaturges dans leurs histoires de vie, si on travaille, je sais pas, en Afrique ou chez les Mayas, on trouvera même le même type d'histoire. Il a d'abord une première blessure initiatique qui va le tuer, en quelque sorte, qui va tuer quelque chose en lui, à laquelle il va se référer jusque dans ce que l'on a appelé sa folie, c'est-à-dire à l'intérieur de l'asile. Et cette blessure initiatique, elle vient très tôt, puisqu'elle elle a lieu à Marseille, en à peu près 1916. Je vais vous lire donc le passage où il en parle, simplement pour éclairer concrètement ces étapes de l'itinéraire d'Artaud, de Tartaud. Vous voyez à quel point le nom d'Artaud est culinaire. Hein. On peut dire Tartaud, tartomate, tarte à la tomate. C'est ce que j'appelle un nom qui est charnu. Et justement, la cuisine, c'est l'art essentiel du tomaturge. Hein. Ne nous y trompons pas. L'essentiel du travail, et j'en ai placé au CNRS un certain nombre, un grand nombre de films à le montrer, l'essentiel du travail du tomaturge, c'est de faire de la cuisine. Hein. Et lorsqu'on nous montre uniquement les piétinements et les chants, on loupe l'étape de la cuisine, qui est l'étape fondamentale, je parle sérieusement.
Alors voilà ce que dit Artaud de ce coup de couteau, c'est un document auquel il faut se référer pour comprendre après comment les choses se passent, hein.
Et pour comprendre avec quelle énergie il coupait les tomates à Ivry lorsqu'il se préparait des pizzas. Hein, car il se préparait d'excellentes pizzas dans un pavillon où on avait installé spécialement pour lui un réchaud à bois où il pouvait préparer d'excellentes pizzas au feu de bois. Hein. Justement, c'est pour ça qu'il avait refusé une chambre dans l'édifice principal parce qu'il n'aurait pas pu préparer de pizza à la tomate. Et à l'oignon également. Mais l'oignon est un légume un peu moins intéressant car l'oignon n'est pas un légume qui a fait le va-et-vient entre l'Amérique et... L'oignon est un légume égyptien et il a pris là-bas quelques teintes métaphysiques, n'est-ce pas, les couches. Enfin, ceci dit, avec la tomate, ça passe encore. Hein. Il y a en ce moment une affaire de possession saugrenue qui remplit toute la terre. Ah, nous sommes quand même en période de la guerre, enfin il y a une petite guerre mondiale, là, dénommée Hitler. Elle est menée par un certain nombre de sectes d'initiés que je connais fort bien et que je poursuis depuis au moins 30 ans. C'est-à-dire depuis un certain jour du printemps 1915 où j'ai été frappé d'un coup de couteau dans le dos par deux souteneurs, cour de Villiers à Marseille, devant l'église des Réformés. J'avais à ce moment-là 19 ans. Je passais devant la pharmacie qui fait l'angle du cours de Villiers et du boulevard de la Madeleine. Garteau est très précis. Lorsque je vis rôder autour de moi deux hommes de mauvaise mine, qui m'inspirèrent l'idée que j'allais être frappé par eux. Je ne les connaissais pas et l'un d'eux me sourit comme pour me dire « Non, tu n'as rien à craindre de nous, ce n'est pas toi que nous cherchons ». Puis je vis son visage changer. Et à la place de l'homme qui me souriait, je vis dans le même corps un masque de bestialité qui me frappa parce qu'il semblait ne pas appartenir à cet homme. Et je sentis passer une torsion affreuse. « Qui suis-je et qu'est-ce que je veux » sembla-t-il se dire tout d'un coup. « Cet homme n'est pas mon ennemi, je ne le connais pas et je ne vais pas le frapper. » Et il s'en alla. Je commençai donc à remonter le boulevard de la Madeleine lorsque je sentis l'air derrière moi secoué par un déchirement. Je pensai « C'est l'âme du maquereau qui se déchire. » Il s'agit du souteneur, hein, non pas du poisson excellent du même nom. Et je n'eus pas le temps de me retourner, que je sentis une lame de couteau me déchirer l'arrière du cœur dans le dos, un peu vers le haut de l'omoplate, à 2 centimètres de la colonne vertébrale. Et je sentis qu'avant le coup, un corps était tombé derrière moi. Je tombai moi aussi par terre, mais je pensais, ce n'est pas encore mon heure dernière, le sang s'en ira, il s'étanchera. Et dans cette idée, je me relevais avec une terrible douleur qui peu à peu d'ailleurs se calma. Le maquereau à terre me dit « Ce n'est pas moi. Et pour rien au monde, je n'aurais voulu vous frapper. Je vous connais, bien que vous m'ayez oublié, et je sais qui vous êtes. J'ai essayé d'éviter le coup qu'on voulait m'obliger à vous porter. Et si mon corps vous l'a peut-être un peu porté, c'est que j'ai été tout d'un coup possédé. Mais mon âme ne vous l'a pas porté, et je suis tombé pour l'arracher à mon corps. » Je lui répondis « Je sais très bien qui a voulu me frapper, et c'est un ange, mais ce n'est pas vous. C'est une vieille histoire qui remonte à avant le commencement. » Et à mesure que je lui parlais, cette histoire d'un crime oublié me revenait, où Jésus-Christ est un macaque de boxons et de claques, et Lucifer le bénisseur de Dieu. Cette histoire, lui dis-je, nous mènera loin, et elle est loin d'être finie. Et elle m'a mené en effet jusqu'à l'asile de Rodez, où je me trouve actuellement à l'ombre de la cathédrale la plus catholique de la Terre, qui dégage jour et nuit sur moi des ondes imprescriptibles d'envoûtement. J'ai encore dans le dos depuis 30 ans la cicatrice de ce coup de couteau, dont la force qui l'animait submergeait l'homme qui le porta avec son corps, mais sans son âme. Bon. C'est intéressant parce que, justement, là où on voit la marque évidente, certains voient la marque évidente du délire d'Artaud, rappelons-nous que ceux qui disent qu'Artaud délire sont eux-mêmes des envoûteurs, donc ils savent de quoi ils parlent, c'est justement la marque la plus précise du premier vécu, qu'on pourrait appeler vécu mythique, vécu initiatique, comme vous voudrez, où effectivement Artaud est frappé à la fois dans son corps et dans son âme. Mais pas par l'âme de l'autre, ce qui fait qu'il réussit
à s'en sortir, et où en même temps se produit un premier éclair de connaissance, éclair qui va le conduire jusqu'à Rodez, où il fera sa descente en enfer et son retour de l'au-delà. Je dis tout cela au premier degré, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait l'entendre au deuxième degré ou au troisième, comme vous voudrez, mais je le dis au premier degré car je pense que si on étudiait une histoire de vie de thaumaturge, que ce soit en Afrique, chez les Mayas ou ailleurs, on retrouverait le même type de document. Simplement, chez nous, nous n'avons rien pour étayer ces documents, puisque nous sommes des spécialistes de l'envoûtement, étant donné que nous avons des banquiers, des commerçants et des échangeurs, même d'autoroutes. Donc, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous vous changer à partir du moment où vous échangez tout le temps, hein? Qui échange ne change plus, hein? Et à partir du moment où on est dans l'ordre de l'échange, on ne peut plus être dans l'ordre du changement, hein? Donc, pour se changer, il faut arrêter d'échanger. Effectivement, ça me paraît clair, n'est-ce pas? Alors, je passe sur les autres étapes qui sont mieux connues, et j'en reviendrai ensuite à la deuxième partie, qui est de détailler un certain nombre de pratiques que Artaud a inventées pour désenvoûter, hein, c'est-à-dire pour lutter contre l'envoûtement ordinaire. Alors, le moment nodal, c'est le moment de sa mort. Hein, en 1939, Antonin Artaud mort, et immédiatement il renaît sous un autre corps. Il a la conscience de sa mort et la conscience de revivre, mais en même temps, il renaît pour passer 8 à 9 ans de souffrance dans des asiles torturés par des tortionnaires qu'on appelle psychiatres ou psychiatres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette mort se produit au moment où il y a une sorte de mort sociale du monde, hein, puisqu'effectivement, il y a une sorte de coïncidence, quelque part, entre l'enfermement d'Artaud et l'enfermement du monde. Deuxièmement, elle se produit au retour de deux voyages initiatiques, le voyage au Mexique et le voyage en Irlande, qui sont précisément deux pays où la mythologie est très vivante, encore aujourd'hui. Et sa renaissance va se produire par une nouvelle écriture, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, qui est une écriture qui ne se dissocie plus du vécu, et qui est surtout une écriture qui est, dirait-on, et c'est là où c'est passionnant, presque importée du pays maya. Artaud a été chez les Tarahumara, mais il a toujours été très conscient, je vous citerai quelques textes tout à l'heure, de l'importance de la civilisation maya, de la société maya sur le Mexique. Hein. Il a lu, il s'est documenté, et Paul Thévenin, qui est une des éditrices d'Antonin Artaud, disait elle-même que un texte d'Artaud est comme l'arbre cosmique des Mayas. Il se déploie sur 13 couches. Donc elle avait bien vu ce rapport. Hein. Et lorsqu'Artaud revient, c'est très important, et là on arrive à l'erreur fondamentale de Paul Thévenin quand même. Hein. Je lui rends hommage, je lui ai dédié ce livre, mais c'est pas pour cette raison qu'il ne faut quand même pas pointer les erreurs de ceux qu'on aime bien, même si je ne l'ai jamais connu. Donc, il revient avec une écriture dessin. C'est-à-dire qu'à partir de 1939, il ne va plus jamais écrire sans dessiner. Or, savez-vous qu'en maya, l'écriture se dit tsib exactement comme le dessin. Tsib, c'est l'écriture dessin. Il n'est pas sans le savoir, il y a un texte sur les hiéroglyphes que je vous lirai qui est très précis d'Artaud sur cette question. Donc, quand il revient en écrivant comme un maya. Mais alors, bien entendu, il ne va pas écrire comme un maya du Mexique, il va écrire comme un maya de France. Moi, comme je suis aussi un maya de France, nous nous retrouvons bien tous les deux. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de mon départ au Mexique. Donc, finalement, je pense qu'il avait prévu ce retour en totortamu que je vous produis aujourd'hui. Donc, l'erreur fondamentale, c'est qu'à partir de 1939, nous n'avons plus que des textes dessinés. Or, que nous produisent les textes? Les textes sont des textes. Hein? Et puis, dans des notes, nous avons des notes sur les dessins. Et puis, de temps en temps, nous avons des expositions, des feuilles de cahier d'Artaud. Mais ça ne nous permet pas de comprendre du tout le développement de la pensée d'Artaud, puisqu'Artaud dit lui-même qu'il n'écrit plus sans dessiner. Donc on va nous mettre d'un côté le texte, de l'autre côté les dessins, et éventuellement des morceaux isolés de ces feuilles. Là, il y a, je crois, toute une ouverture à poursuivre, je veux dire, dans les années à venir, si tant est que l'imbroglio juridique se dénoue, où il faudra avoir deux livres à partir du tome 13, il y en a encore une vingtaine, un livre du texte d'Artaud et un livre des cahiers d'Artaud avec les pages, l'écriture dessinée et éventuellement une transcription en face pour faciliter la lecture, comme on fait dans les éditions savantes. Et pour l'instant, on en est réduit à des conjonctures. Vous savez que Victor Hugo, par exemple, pour ne citer que lui, avait lui aussi une écriture dessin et passé du dessin à l'écriture pour développer une idée ou un thème. Artaud lui-même, à de nombreuses reprises, écrit des textes où il explique que les dessins, alors c'est une expression qui n'est pas très heureuse à mon avis, mais enfin je vous la cite comme il l'a employée, sont que les textes sont des véritables doubles de ces dessins. Bon, je pense que ce n'est pas très heureux, parce qu'à mon avis, mais ça montre qu'il était au travail, qu'il cherchait quelque chose. Il était peut-être encore pas assez maya pour arriver à la simple écriture de dessin. Mais, effectivement, il a fait de nombreux commentaires de ses dessins pour expliquer qu'il s'agissait de la même chose, et que le dessin, en quelque sorte, était plus proche de la chair verbale qu'il voulait exprimer. Parce qu'effectivement, le dessin, c'était directement le tremblement anatomique de sa main à la feuille de papier. On a un autre exemple tout à fait intéressant que je verse aussi au dossier des écrivains dessinateurs, hein, de ceux qui retrouvent l'écriture ancienne, l'écriture dessinée. Je ne parlerai pas des bandes dessinées qui sont la grande nouveauté de ce siècle, parce que ça, il nous faudrait une conférence entière pour le faire, mais vous êtes tous des amateurs de Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Little Nemo et autres, donc je parle à des connaisseurs. Je n'ai donc pas besoin d'entrer dans les détails. Mais ou Yoko Tsuno, d'ailleurs, que je conseillais encore aujourd'hui lors d'un exposé de formation. Très, très intéressant, Yoko Tsuno. Notamment le volume sur les insectes. Je vous conseille le volume sur les insectes, qui s'appelle Titan. Tout à fait intéressant sur le rapport homme-animal et la thaumaturgie. La troisième personne que je voulais vous citer, c'est Michaud. Bien sûr, Henri Michaud, lui aussi, à un moment donné, n'écrit plus sans dessiner. Hein, et je crois qu'il y a une sorte de retour comme ça, dialectique, aux sources de la poésie. Comme nous ne pouvons pas parler sans gestualiser, gesticuler. Imaginez quelqu'un, ça existe dans les congrès. Hein.
Alors donc, Antonin Artaud est un poète révolutionnaire qui disait « il faut changer son corps ». Oui, il faut le changer car c'est important de se saisir oralement des textes.
Bon, on a effectivement ce genre de notamment en alchimie, ils sont très forts en histoire de l'alchimie pour annonner les textes de cette manière-là. C'est absolument remarquable. On peut y aller s'y bidonner, enfin pas trop fort parce que sinon on risque de s'en tirer quelques petits problèmes avec les videurs. Monsieur Maton, qui est extrêmement costaud et qui risque de nous vider de la pièce. Non, Monsieur Maton est un copain, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Et je crois que là, il y a un travail à faire. Alors justement, une des critiques que faisait Serge Malocena, et c'est très intéressant, je ne dis pas que toutes ses intentions sont pures, et je me fiche pas mal de la pureté de M. Malocena d'ailleurs, mais je trouvais ça intéressant lorsque j'en ai discuté avec lui. Il disait, mais moi je voudrais que l'on publie l'œuvre entière d'Artaud avec ses dessins. Il parlait lui-même de véritables rébus, lui qui les avait regardés en détail. Il me disait, vous devriez aller voir. Et alors moi je lui ai dit, voilà, écoutez, il y réfléchit, mais apparemment... Il ne m'a pas répondu, je ne sais pas si je suis en bonne voie. Remarquez, sa santé est fragile, donc parfois de temps en temps il réapparaît, il me donne un coup de fil. Mais je lui ai dit, voilà, moi je vous propose que plutôt que de bloquer l'édition des prochains volumes, vous demandez une double édition. Hein, une édition des œuvres complètes comme ça, telle qu'elle a été voulue par Paul Thévenin, et en parallèle, l'édition, je dirais, du texte-dessin. Alors il réfléchit, il a dit, peut-être. J'ai dit, moi si vous voulez, je veux bien regarder et faire ça si vous en avez envie. Hein. Alors, c'est intéressant parce que justement cet écrire de dessin, c'est un... des moyens que le thaumaturge, dans son développement historique, a trouvé pour, en quelque sorte, capturer l'essence énigmatique de l'univers. Les Mayas, pour parler d'eux, appellent leur écriture dessin akatsib, c'est-à-dire l'écriture dessin obscur. Hein, et c'est dans le creux de leurs lettres qu'ils donnent à deviner d'une manière toujours aléatoire, le sens de leurs écrits. L'écriture maya, contrairement à certains savants qui voudraient la déchiffrer, n'est pas fondamentalement une écriture comme la nôtre. Elle a des aspects comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement la lire, mais elle a aussi des aspects aléatoires qu'on ne peut reproduire qu'en faisant certaines manœuvres précises de divination, par exemple faire couler de l'eau sur les livres et voir où vont les formes qui se produisent, ou bien jeter des grains de maïs et essayer de voir quelles lettres se construisent. On sait également que les Chinois ont cette même tradition divinatoire sur la lecture des écailles de tortue à l'origine de leurs écritures glyphiques. Donc il y a effectivement là une sorte de saisie chez certains peuples que l'on retrouve chez certains artistes et thaumaturges contemporains pour essayer de dire sans le trahir l'énigme de la nature. Hein. Parce que comme disait Héraclite, et je pense que Rabelais serait d'accord avec lui, nature aime se cacher. Hein. C'est très amusant de jouer à cache-cache, hein, rappelez-vous quand vous étiez enfant. Quoi de plus inintéressant que de s'imaginer que tout est à trouver. Ça n'a aucun intérêt.
Et donc, effectivement, l'écriture ne peut être intéressante que si elle est une écriture glissante, une écriture qui rebondit d'un mot sur l'autre. Et d'ailleurs, toute vraie écriture est perpétuel rébus, perpétuelle mise en trou, lecture de mots sous les mots. Le grand Saussure lui-même, vous êtes peut-être au courant, hein, le grand Saussure lui-même avait deux principes pour sa linguistique générale. Il a refoulé le deuxième. Le premier, c'était l'arbitraire du signe. Bon, je veux bien. Pourquoi pas, on a tellement disserté dessus. Et le deuxième, c'était la fonction paragrammatique. C'est-à-dire le fait qu'il y a toujours des mots sous les mots et qu'il s'agit d'écouter l'autre musique derrière chaque mot pour comprendre le message à contresens. Son contresens, le son à contresens, comme on remonte à contre-courant. Et le glyphe, c'est ça. C'est une écriture qui essaye, dans sa chair, de rendre cette plasticité de l'oral. Alors, voilà le premier moyen, je suis entré dans ma dernière partie, c'est-à-dire les pratiques mythiques, ou les pratiques de désenvoûtement, si on veut reprendre la terminologie, d'Antonin Artaud. Donc, le premier, c'est l'écriture dessin, et on comprend qu'effectivement, M. Gallimard n'a jamais rien compris à la littérature, mais enfin, Paul Thévenin aurait dû comprendre un peu mieux. On comprend comment il est désolant que nous possédions aujourd'hui uniquement ce type d'écriture dans les éditions d'Artaud. Voilà pourquoi aussi, j'ai mis dans mon cahier, j'ai essayé de mettre au milieu une partie de dessin, avec cette phrase d'Artaud, il a rendu l'eau de la peinture à la nature, mais à lui, qui la lui rendra. C'est une phrase extraite du Van Gogh. Hein. Alors, je vais, en introduction de ce que j'appellerais la position nodale d'Artaud sur l'envoûtement, vous lire justement une traduction d'un envoûtement maya. Je peux comme ça sortir ma deuxième casquette. Hein. On verra comment ces métaphores, je dirais, d'enculage, on peut appeler ça sodomie fécondante, comme disait un de nos amis... Le docteur Gess, qui a quelques rapports avec Artaud, sont en fait des métaphores qui correspondent exactement aux pratiques d'envoûtement des Mayas. Ça, c'est important de s'en rendre compte. Parce que, comme je le disais en introduction, précisément une des techniques de contre-envoûtement, c'est d'aller baiser le dieu pour lui aspirer sa force vitale. Tchak-Ahaou, le grand roi rouge du ciel en haut, le grand roi rouge de la terre en bas, quelle fut ma figure lorsque je me dressai sur le chemin au fossé rempli d'os, fossé recouvert de crânes et d'os, quand l'obscurité s'éclaira. Je suis le feu de la terre en bas, la fumée du ciel en haut. Puis je me dressai devant la luxure du coït, la masturbante. Qui est ton père? Qui est ton putain de père? Le masturbateur qui te procréa? En un jour, je fis deux mondes. En une nuit, tu en terminas avec ton père. Le septième jour, la septième nuit, nous nous accouplâmes. Nous nous accouplâmes avec les femmes. Ne m'atteins pas, sperme de la création. Sperme de nuit, qui t'enferma? Le grand couvercle du ciel en haut? Le grand couvercle de la tête, de la terre en bas? Et j'enfermai ton souffle avec le couvercle de la flamme. Et je restai en érection. Pendant que tu m'attendais, et qu'est-ce qui vint se coller sur ton souffle? Le sperme de la création? Et qu'est-ce qui se colla sur tes pieds? La terre rouge? La boue sur ta puissance? Quelle était ta figure lorsque je t'ai injurié? Lorsque je me suis assis avec toi? Et mes paroles vont tombant. Mon langage est énigmatique jusqu'à la demeure du serpent à plumes. Il se livre au plaisir charnel. Et la peur te monte jusqu'aux hanches, au ciel. Et la peur te monte jusqu'aux hanches, aux enfers. Et la peur te monte jusqu'aux hanches, sur la terre. Mais moi, je n'avais plus peur quand tu as commencé à avoir peur. Une pointe d'agave est la pointe de ton corps. Quel fut ce qui t'envoûta? Le sang très pur de Ish-Hop-Hol, celle dont les cheveux sont déliés. Et je t'ai attrapé. Une pointe d'agave est la pointe de ton corps. Et on te l'introduisit dans le sang. Et on dit que ce fut ta vigueur. D'où venais-tu lorsque tu es venu? Du centre des enfers? Du centre des eaux? D'où sortais-tu? De la porte de la nuit? Jesus Maria! Oh, c'est ta force vitale qui éclate! Ce sont tes forces qui s'évanouissent au sud! Ta force vitale fut enfermée, le sperme de la création, le sperme de la naissance. Et où est-ce étendu, ce que je n'ai pas remué? C'est enfermé au lieu du singe, enfermé au sein du sommeil, au sein de l'obscurité, enfermé en face de moi, enfermé derrière moi, enfermé dans mon enclosure.
Donc là, nous avons effectivement un texte, je trouve, moi, qui a pas mal d'infinité avec certains aspects de la pensée d'Artaud. Et on y détaille notamment un certain nombre d'opérations pratiques, qui sont presque des opérations de médecine et qui font référence à un certain type d'acupuncture sanglante que l'on pratiquait sur les corps, lorsque justement des vancettes s'étaient introduits, c'est-à-dire nous avaient en quelque sorte sodomisé et avaient vicié notre sang pour les expulser de notre corps. Donc il y a trois types d'envoûtements fondamentaux. Envoûtement qu'il faut penser sur les deux plans, c'est-à-dire sur le plan symbolique et sur le plan actuel. Hein, je préfère opposer le terme actuel au terme symbolique plutôt que le terme réel, parce que le symbolique c'est du réel aussi, mais l'actuel c'est ce qui est en acte dans l'immédiateté. Alors que le symbolique fait toujours retour. Donc ces trois moments, c'est baiser l'autre, nous l'avons vu, hein, et c'est le paradigme même de la création, hein, et en même temps de la procréation, hein, le terme lui-même est clair. Deuxièmement, bouffer l'autre, hein, d'où les pratiques d'ailleurs de cannibalisme, mais qui sont souvent métaphoriques. Hein. Dans notre société, on bouffe l'autre plutôt quand on va bouffer du curé, ou bouffer du flic, ou bouffer du conservateur de la BN, on bouffe métaphoriquement. Et puis la dernière, c'est acheter l'autre. Hein? Et acheter l'autre, c'est peut-être la plus dangereuse, la dernière venue, mais celle qui est proprement parler notre spécialité. N'est-ce pas? Voulez-vous acheter nos spécialités? C'est pas cher. Alors, ces trois niveaux, Artaud les martèle, hein, et les développe. Et enfin, il propose des pratiques qui permettent de les contrer. Hein? À baiser l'autre, il oppose l'abstinence. Hein, et il propose l'abstinence faute de mieux, car lui, il n'arrive pas à s'en sortir avec la sexualité, et il trouve que la plupart de ses contemporains gâchent leur énergie corporelle dans des gesticulations obscènes, c'est sa position. À manger l'autre, eh bien, il propose une nouvelle alimentation, à partir, faire toujours attention à ce que l'on mangera, l'importance de la tomate, comme je le disais tout à l'heure, hein, de légumes bien choisis. Je crois que c'est très important, hein. J'ajouterais, moi, tuer ses propres animaux, hein, comme disait Joseph Delteille, prendre son bœuf au ciel et ses oies dans la prairie, c'est-à-dire revenir effectivement à des formes élémentaires, non pas de la parenté, mais de l'alimentation. Car l'alimentation, c'est le fondement à la fois de la vie et en même temps de la fausse vie. C'est-à-dire l'envoûtement. Et lorsque l'on mange du poulet de batterie, eh bien, nous aussi, on envoûte. Hein? On envoûte. Et si on ne le sait pas, on est encore plus coupable d'envoûtement. J'ai souvent discouru sur ce thème. Hein? Alors, il se donne aussi des objets, hein? Des objets actions qui lui permettent de lutter. Alors, c'est cette canne. Qu'il va essayer de remettre aux Irlandais, mais dont les Irlandais ne voudront pas, et qu'il dit donner par un de ses amis qui était thaumaturge dans une région française, et probablement faite d'un morceau d'arbre sacré avec lequel il sortait des étincelles. C'est ce billot, plus concrètement, sur lequel il va marteler avec un maillet fabriquant ces mots et tout en réalisant les textes dont je vous ai lu certains tout à l'heure, hein, c'est des objets qui réinventent les outils originels, parce que l'outil, j'ai fait un jour une conférence qui s'appelait « L'âme est dans l'outil », l'outil c'est une invention du thaumaturge. Le thaumaturge capte l'ancêtre dans l'outil, que ce soit l'outil pierre, l'outil bois, éventuellement l'outil plante, mais en tant que manche du bois qui autrefois a été plante, donc, et l'outil os et corne. Donc effectivement, ce ne sont pas, comme on peut le penser aujourd'hui vulgairement, de simples morceaux inanimés, ce sont des êtres vivants que l'on a captés et que l'on doit manier avec précaution. Donc lorsqu'Artaud produit de tels objets, il retrouve cette dynamique de l'objet ancêtre. Et puis, la grande affaire, c'est aussi se fabriquer des filles mortes à naître sans passer par la sexualité. Alors effectivement, ça aussi c'est un grand thème chamanique, c'est-à-dire comment se construire des alliés. Hein, c'est le thème du golem chez les juifs, c'est le thème des arouches chez les mayas, on retrouve ça dans un certain nombre de sociétés. Par quelles pratiques nous pouvons fabriquer des êtres qui existent sans avoir recours à la sexualité. Les chamans ont des pratiques d'abstinence également. Donc quand Artaud s'abstient, les thaumaturges, hein, j'ai encore fait ont des pratiques d'abstinence. Et quand Artaud s'abstient, il retrouve là aussi une pratique qui est importante lorsqu'on veut réaliser certaines choses. Hein. Je crois que de mon côté, je ne prends pas du tout l'abstinence, rassurez-vous, mais tant pis pour vous, mais je pense que dans certains cas, il faut effectivement s'abstenir de manger, de parler, de faire l'amour, et surtout lorsque on a affaire à des moments où il faut être concentré dans la réalisation d'un certain nombre de pratiques complexes. Alors ça c'est un des thèmes, je dirais, les plus purement thaumaturges de son œuvre et en même temps les plus complexes. Hein, ce thème des filles mortes à naître, où il va en quelque sorte se les réinventer. Alors je vous lirai là un petit texte et ensuite je terminerai, car il faut quand même pas trop vous fatiguer. Hein, par un dernier texte sur la vie et la mort. Hein. Nous partirons ensuite de ce que j'appellerai le vécu métamortel, qui est un autre grand thème chamanique. Alors, les filles mortes à naître, texte de Victor Tobloch-Cara. J'ai appelé ce tableau le 11e de mon livre. Le réel s'est résorbé comme un songe, un nuage qui rentre au nid. Tous les titres de tableaux sont des phrases d'Artaud que j'ai calligraphiées, et les textes après sont semble-t-il de moi. Mais je n'en suis pas bien sûr. Lettre à mes filles mortes. Alors, on notera que Q est toujours écrit sans L, hein, par Artaud, et parce que le Q, c'est très difficile qu'il puisse voler, n'est-ce pas ? Du trou de Q, où je suis tombé debout, quand on m'a mis dans la terre bleue, je vous écris, mes filles de lyre, mortes avant ma vie. Quand de lyre à délire, hein, disait Rabelais. Yvonne, toi qui sonnes l'heure de ma peur, Nénéka, enclos en toi le terrible souffle fécal qui te rend madame morte même, et qui, fille de mes filles, est aussi ma grand-mère. Car depuis le petit chaperon rouge, on sait que les petits-enfants mangent leur mère grand. Annie, animal, Anna, anémone de ma mère à moi, où j'ai plongé le temps d'un impossible partage. Cécile, où j'ai cramé mon âme dans un arteau deux fois. Catherine, une mine placée sous ton cul a fait capoter le néant pour une petite pièce de 1 franc. Car il faut que je vous raconte comment je vous ai mis à jour avant ma première mort, celle de 1939. J'avais aimé une femme à qui j'avais dit toujours, bien que plus tard j'ai écrit toujours jamais, jamais toujours, je tire à l'arc de tes jours. Je lui disais, n'oublie pas d'écrire fils, et je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi, et je crois qu'après toi, je n'aimerai plus jamais. Et, je t'en supplie, écris-moi vite, je ne peux pas me passer de toi. Et, enlevé de moi-même ce cœur, tu l'emportes avec toi, et je reste avec ma vie faible. Mais j'ai quitté celle que j'appelais mon ange, et je n'ai plus jamais aimé. Du moins, dans cette première vie, qui dura jusqu'en 1939. J'ai fini par abdiquer mon corps, cette pauvre chimère idéaliste, et j'en ai refait un autre. Sans idée, sans sexe. Il avait encore un bâton ballant entre les jambes, une espèce de poireau pensant, mais je le considérais comme une imperfection. Et de souffrance en souffrance, je vous ai conçu dans la douleur une à une. Je vous ai fait goûter de mon sperme incrusté, que j'ai inviscéré dans un organe néantisé, gnominé, désactivé. Je vous ai fait goûter, c'est-à-dire que vous êtes sorties une à une, mes filles adorées, de mon corps tout neuf. Et je vous ai voulu exactement à l'inverse, asymétrique de ma sexualité autrefois assouvie. Car de cette vie à dessous, je ne voulais plus. Et faute de rester pur, il me fallait vous inventer. Un poète d'autrefois avait crié de son feu à lui des filles plus réelles que les milliers d'étreintes qui chaque jour glissent entre les cuisses de nos villes. Et de son feu, lentement, il avait joué une inaudible note dont la musique m'émeut toujours. Sylvie,
Angélique, Jenny, Isis,
Emilia,
Seria,
Octavie,
et enfin toi, Aurélia, le rêve d'une vie. Il disait, le rêve est ma seconde vie, et je ne sais pas pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti si bien portant. Et vraiment, plus que de ma vie d'acteur, c'est de ma vie de malade que je vous ai tiré, c'est-à-dire de ma cuisse gangrénée et purulente que vous êtes sortis l'une après l'autre et tout armée pour vaincre après ma mort. Donc voilà un petit peu la place des filles mortes à naître. Chez Artaud, on pourra revenir si vous le souhaitez sur les détails précis de ce qui est en jeu ici. Alors, le dernier moment, c'est effectivement le vécu métamortel. Bon, Artaud a été le Christ autrefois, puis il a compris qu'en fait, le Christ était un envoûteur et que le Christ était sorti au dernier moment de son corps et l'avait laissé lui souffrir et mourir sur la croix. Ce qui est vraiment dégueulasse, vous l'avouerez. Et donc, à partir de ce moment-là, Artaud a repris tout de même un certain nombre de termes christiques, mais en les inchristant. En les inversant, comme la fleur inverse des troubadours, et il va effectivement penser sa mort comme une nouvelle vie. C'est-à-dire que lorsqu'il revient de son séjour en enfer, il est déjà mort, donc la mort ne lui fait plus peur, et il sait que sa nouvelle mort va être une nouvelle vie. Donc, il attend la mort, et voilà ce qu'il dit de ses rapports entre la vie et la mort, c'est-à-dire de ce qui est finalement le destin ultime. Du thaumaturge. Un thaumaturge que vous connaissez peut-être, dont je tairai le nom ici, disait « Nous avons un certain nombre d'adversaires dans notre vie. Nous avons d'abord l'arrogance, ensuite nous avons la peur, puis nous rencontrons un adversaire de taille, c'est le succès. Ça, c'est un des adversaires les plus dangereux. Et puis, au dernier moment de notre vie, lorsque nous avons enfin réussi à vaincre cet adversaire, quel succès, nous rencontrons notre dernier adversaire, qui est la mort. Et donc la mort, c'est notre dernier partenaire avec qui il faut jouer la vie pour vaincre après sa mort. Et tout thaumaturge rêve de ce vécu métamortel qui lui permettra enfin de jouer la dernière valse dans l'au-delà. Dans l'eau de l'au-delà, c'est-à-dire sous forme de pluie. Et je vais donc vous lire un texte d'Artaud qui s'appelle « Il fallait d'abord avoir envie de vivre » et qui est un texte également non paru dans les œuvres complètes. « Il fallait d'abord avoir envie de vivre. Il fallait d'abord avoir envie de vivre et non de mourir ou d'être mort. La vie séminale prise dans la gorge et emmenée entre les cuisses de castrés pour manger, être homme et être femme. La vie est un habit implanté sur un arbre mort qui se réveillera de la mort entre les morts. » Très christique, ça. Et on retrouve presque Texel dans certaines paroles d'Arto Christo, qu'il ne faut pas confondre avec Monte Cristo, et qui a écrit des textes il y a quelques 2000 ans. Arto Christo a dit presque pareil. « Et avec quoi a-t-elle été faite, la vie ? Je me mouche de Dieu. » Et oui, c'est très important parce que, vous savez, qu'autrefois, quand les hommes éternuaient, ils mouraient. Voilà pourquoi il faut toujours se moucher en pensant à Dieu. Et qui a sauvé, c'est véridique ce que je vous dis là, qui a sauvé les hommes de la mort par éternuement, vous le savez, c'est Saint Jacques. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit « à vos souhaits », c'est au souhait de Saint Jacques, c'est-à-dire qu'on remercie l'apôtre Saint Jacques de nous empêcher de mourir fréquemment, car après tout, nous éternuons assez souvent. Voilà pourquoi il faut se moucher de Dieu à chaque fois. Yopondo rara pennadma, rar penda panama. L'arme de larve, larve de l'arme, de cette langate présumée de vie, où Dieu a voulu voir l'élément de la vie et qu'il a accroché au passage en pleine ignition. Et dont ils se sont habillés, et dont ils ont voulu m'habiller après m'avoir assassiné. L'être est faux, l'homme est faux, couillon de cochon et cochon de couille. Voilà la pensée totémique, là, d'Artaud. Les êtres ont inventé la vie, et ils l'ont greffée ensuite sur l'arbre mort qui était tout. Métaphysique, là. La vie est un sous-élément, un sub-élément, J'étais un vieil arbre à rainures qui ne mangeait pas, ne buvait pas, ne respirait pas, et tous les conchieurs de merde à sperme et de morve de merde se sont insinués en moi, en encerclant mes moindres filaments et en se constituant une vie de base fausse. Chaque fois que vous allez chier sous un arbre, rappelez-vous ces paroles. De sous-éléments, un double de vie en sous-main, qu'ils ont voulu faire vivre à la place de la mienne, qu'ils ignoraient. Et dont ils ignorent encore l'authentique mouvement, élancement, lancinement, l'élément d'authentique durée, cette montée de punaise d'égout sur l'arbre mort, sur l'arbre à mort, que je ne cesserai jamais d'être. Cessera avec la douleur qu'elle a apportée, intronisée dans tout mon corps, et qui n'était que l'extension perverse de cette affre de jouissance qu'elle avait pointée entre mes deux cuisses, dans le muscle subsidiaire tressé par elle, pour les besoins de son ignoble faim. Car la faim, l'appétit, le goût, le besoin de nourriture ne proviennent que de ce muscle de jouissance infâme avec lequel l'être fit l'amour, et pour cela se sépara en homme et femme, mâle et femelle, alors qu'il n'y avait pas de sexe au commencement, et que le corps actuel n'est qu'un plaquage de petite envergure appliqué sur l'écorce de l'arbre terrible qui n'a pas cessé de monter et bientôt aura atteint son fatal développement. Alors ce sera l'explosion terrible qui fera péter au loin l'armée des poux, car la raison d'être de l'existence n'a pas encore été prononcée ou énoncée. Pour moi, je m'ennuie affreusement de vivre, et je quitterai nécessairement cette vie-ci, car non seulement l'axe de vie a été faussé et déplacé, mais il ne peut y avoir d'axe à cette hôtée de crachin de merde, dont une pleine couffe pèse sur un emplacement appelé par les hommes « rate », alors qu'ils prennent la morve de leur nez dans un autre petit sac accroché pendant la montée, et qu'ils ont surnommé « foie », afin de ne pas oublier le goût d'animal dont ils sont nés. Petits animalcules de hasard que j'ai passé mon temps à détruire et qui ont proliféré sur un de mes côtés, un jour que je dormais. Mais le dormeur que je suis ne manquera pas de s'éveiller, et je crois que ce sera très bientôt. No ezer et nabo, numinyama et nyamini, manyaminya, huma. Effectivement, 2 mois plus tard, Antonin Artaud atterrissait dans l'autre monde, nous venons de le renvoyer.